Avant de lire, deux, trois petites nouvelles. Vous savez que nous honorons, j'allais dire, d'avoir de bonnes relations avec d'autres communautés que la nôtre, et pas seulement des communautés chrétiennes, mais aussi des communautés musulmanes et juives. Et en ce moment, c'est le Ramadan, et on a de bons liens avec la mosquée de Bezous à côté. Et donc j'avais été invité au nom de l'Église à nous représenter. Cette semaine, il y avait une nuit particulière, la nuit du destin. Et donc c'est une nuit où les musulmans prient toute la nuit, sont à la mosquée et prient toute la nuit. Donc j'avais été invité, donc je suis allé. C'est un repas, il y a un repas à minuit, donc c'est un peu particulier comme temps. Mais bon, ils m'ont donné la parole, j'ai pu partager un petit peu. Et puis ça a été pour moi l'occasion aussi d'offrir une Bible au président de la mosquée. Donc je vous invite à prier pour la communauté musulmane du secteur. Voilà. Côté communauté juive, on organise le 15 mai, je vous en informe parce que peut-être ça peut intéresser certains, une journée, c'est le dimanche 15 mai donc, une journée de visite du Montpellier juif médiéval. Il y a pas mal de choses à voir à Montpellier. Le week-end est presque plein parce qu'on est limité en nombre, mais si un ou deux ou trois sont intéressés, je peux vous mettre sur la liste en cas de désistement. Donc on va visiter le mikvé médiéval. Le mikvé, c'est le bain rituel qu'il y a dans les synagogues. Et puis on va visiter les synagogues. On aura une conférence avec le professeur Yankou, qui est une sommité, j'allais dire. Donc on va vivre un bon temps. Donc si ça vous intéresse, si deux ou trois sont intéressés, ben, vous venez à la sortie, vous m'en parlez. Voilà, et dernière info avant de démarrer la lecture de la Bible. L'école chrétienne qui cherche toujours un service civique pour la rentrée de septembre. Donc si vous connaissez un jeune de 16 à 25 ans qui veut avoir une expérience dans le domaine de l'éducation, de l'enfance, ou qui veut chercher sa voie pendant une année, prendre une année de break, etc., bien, c'est pareil, vous l'orientez vers nous. Et on cherche toujours un enseignant aussi, c'est-à-dire quelqu'un qui a bac plus 2 et qui serait intéressé pour servir au sein de l'école. Voilà, pensez-y, s'il vous plaît, priez pour ça, et puis répandez l'info autour de nous, autour de vous. Voilà, je vous invite à lire en préambule du partage que je vais faire ce matin, le psaume 118. Psaume 118, « Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa bienveillance durera toujours. Qu'Israël le dise. » Car sa bienveillance durera toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa bienveillance durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa bienveillance durera toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a répondu, il m'a mis à l'aise. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours. J'arrêterai mes regards sur ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier en l'Éternel que de se confier en l'homme. Mieux vaut se réfugier en l'Éternel que de se confier aux nobles. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais fort pour me faire tomber. Mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et mon chant. Il est devenu mon salut. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel agit avec puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel agit avec puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je redirai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. Par elles, j'entrerai, je célébrerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Je te célébrerai parce que tu m'as répondu, parce que tu es devenu mon salut. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale, celle de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un miracle à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. À cause d'elle, soyons dans l'allégresse et la joie. Éternel, accorde le salut. Éternel, donne le succès. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons au nom de l'Éternel. L'Éternel est Dieu, il nous éclaire. Attachez des branchages au cortège de fête, jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu, je te célébrerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa bienveillance durera toujours. Amen. J'ai lu ce psaume en entier parce qu'il va servir de toile de fond à ce que je vais partager. En fait, ce matin, je voulais vous emmener en promenade avec une foule qu'on retrouve dans la ville de Jérusalem. Lorsqu'on lit l'évangile, on voit par moments des foules entières suivre Jésus. Mais il nous est dit que Jésus ne se faisait pas trop d'illusions sur leur motivation. Un jour, il va même dire à cette foule de ses suiveurs, « Vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous vous êtes rassasiés. C'est le ventre qui vous intéresse, c'est pas grand-chose d'autre. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. » C'est dans Jean 6. C'est intéressant de voir dans les évangiles la dynamique des foules. Alors bien sûr, ce matin, on ne va pas regarder tous les passages des évangiles dans lesquels les foules apparaissent, ils sont trop nombreux. Mais ce matin, je voulais vous parler de l'histoire et de l'évolution d'une de ces foules, celle des habitants de Jérusalem. C'est un sujet un petit peu inhabituel, mais que je trouve intéressant et instructif. Ce n'est pas un thème, j'allais dire, qui va nous toucher directement dans notre quotidien et demander une mise en pratique précise, mais c'est un thème qui cherche à nous enraciner un peu plus dans les Écritures, à peut-être nous donner une clé de lecture des Écritures aussi, peut-être modifier certains regards préconçus qu'on pourrait avoir, soit par notre propre lecture personnelle, soit même hérité d'enseignements reçus dans le passé. Au-delà de ça, ça va nous permettre de voir que le plan de Dieu s'accomplit toujours, que ce qu'il a dit, il le fait, et qu'il est toujours fidèle à ses promesses. Et ça, ce serait un encouragement pour chacun. En fait, ce message, il m'a été inspiré, il n'y a pas longtemps, par une lecture qu'a fait Farid, ici même, lors de sa présidence du culte, le jour des rameaux. Je ne sais pas si vous étiez présents, si vous en souvenez, mais il avait introduit le culte par un passage dans l'évangile de Matthieu, que je vous propose de relire maintenant. C'est dans Matthieu 21. Matthieu 21, je lis à partir du verset 1. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin ». Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, je le souligne, mais comme je ne peux pas souligner les mots, je les répète, mais dans mon texte, c'est souligné. Dites à la fille de Sion, voici, ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements, et ils les firent asseoir dessus. Ils le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule, c'est là où on commence à rencontrer la foule, la plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l'on disait, « Mais qui est celui-ci » La foule répondait, « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Ça m'a interpellé quand Farid a lu ça, je l'avais lu des dizaines de fois ce texte, mais quand Farid l'a lu la dernière fois, ça m'a interpellé, je me suis dit, mais cette foule, elle m'impressionne. Elle m'impressionne parce qu'elle va dire des choses intéressantes, elle fait quelque chose d'intéressant, elle va dire des choses intéressantes. Cet épisode de la vie de Jésus nous montre une foule qui l'accueille et qui l'acclame avec enthousiasme. On reviendra justement sur ce que dit cette foule tout à l'heure. Je ne sais pas vous, mais personnellement, j'ai souvent entendu des commentaires chrétiens qui soulignaient la versatilité de la foule. Ces commentateurs relèvent que la foule des Juifs de Jérusalem, qui acclame triomphalement Jésus à son entrée à Jérusalem, va le lendemain tourner sa veste, j'allais dire, et crier « Crucifie-le, crucifie-le !» Ils insistent sur l'inculture de la foule, sur son manque de connaissances, sur sa facilité à être manipulée et même à changer d'avis aussi vite qu'elle change de tunique. C'est aussi cette version des faits que l'on retrouve en général dans les films hollywoodiens qui traitent sur la vie de Jésus. On voit cette foule qui acclame Jésus, qui brandit des branches, qui met ses vêtements, Jésus entre. Et puis le lendemain, on la voit crier « Crucifie-le, crucifie-le !» Et on parle de cette foule complètement versatile. En fait, on est assez loin de la vérité. Je vous propose de lire un deuxième texte, cette fois-ci dans l'évangile de Luc, au chapitre 23. Toujours dans cette même période, au moment où Jésus est arrivé à Jérusalem. Ils se levèrent tous, et ils conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant « Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César, et se disant lui-même Messie et roi. » Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule « Je ne trouve rien de coupable en cet homme. » Ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, Pilate leur dit « Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte, et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé. Et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc, après l'avoir fait battre de verge. » Mais à chaque fête, il était obligé de relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble « Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas !» Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus et ils crièrent « Crucifie, crucifie-le !» Pilate leur dit pour la troisième fois « Quel mal a-t-il fait ? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verge. » Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il fût crucifié, et leurs cris l'emportèrent. Pilate prononça que ce qu'il demandait serait fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple, et de femmes qui se frappaient la poitrine et qui se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elles et dit « fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants, car voici des jours viendront où l'on dira « Heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous et aux collines, couvrez-nous. » Jésus évoque là en fait la destruction de Jérusalem par les Romains quelques années après, une quarantaine d'années après. En 70. En 70. Alors j'ai voulu lire ces textes parce que je trouve qu'ils sont vraiment importants pour mon sujet de ce matin. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose dans ce deuxième texte ? En fait, il nous est présenté deux foules, non pas une, mais deux. Deux foules qui entrent en scène. Il y a d'abord une foule qui est présente au procès de Jésus. Et le contexte, si on lit un peu plus haut, nous explique que cette foule, elle est composée des anciens du peuple, des principaux sacrificateurs, qui étaient les Sadducéens, et des scribes, puis probablement de quelques autres personnes sur lesquelles nous n'avons pas de détails. Il y a des recherches archéologiques qui sont faites en Israël sans arrêt, parce qu'il y a tellement de choses à découvrir, et les recherches archéologiques à Jérusalem et les vestiges qu'on a trouvés ont montré que le prétoire et la cour, là où a eu lieu le procès de Jésus, ne peut contenir tout au plus qu'une centaine de personnes. Cela nous dit quelque chose sur l'importance de cette foule, sur l'importance numérique de cette foule présente au procès de Jésus et qui a réclamé sa condamnation. Elle est en fait principalement composée des autorités centrales du peuple, de ceux qui tiennent le pouvoir, de l'aristocratie, et puis de ceux qui tiennent le temple, puisque les Sadducéens étaient les personnes qui étaient officiers au temple, etc. Sadducéens qui, je le rappelle si vous l'avez oublié, mais c'était ces Juifs qui faisaient partie de l'aristocratie, qui géraient le temple, et qui étaient des gens qui avaient conservé une bonne dose d'hellénisation. C'était vraiment la pensée grecque, comme on dit, qui était présente chez eux. C'est eux qui se sont notamment opposés à Jésus concernant la résurrection. Ils ne croyaient pas à la résurrection, etc. Et puis dans ce texte, il y a une autre foule. C'est celle qui se rassemble spontanément et qui accompagne Jésus en pleurant du lieu de sa condamnation au lieu de son exécution. Il nous est dit que cette foule était composée d'une grande multitude des gens du peuple. Grande multitude des gens du peuple. Or, je ne peux pas m'empêcher de penser que cette deuxième foule qui se lamente du drame qui arrive à Jésus est globalement la même que celle qu'il avait accueillie lors de son entrée à Jérusalem. Outre ce qui a déjà été dit un peu plus haut, il y a deux indices qui indiquent cela. Par exemple, ces gens accompagnent Jésus dans les rues de la ville. Les autres, les autorités, sont des gens de l'intérieur, j'allais dire. Sont des gens du palais, sont des gens du Sanhédrin, sont des gens qui vont dans le prétoire. C'est des gens de l'intérieur, c'est des gens des réunions, c'est les autorités. Là, on a la foule qui est dehors, qui est dans les rues, qui voit passer Jésus, qui arrive à Jérusalem et qui se rassemble spontanément. Qui voit Jésus sortir du prétoire pour aller sur la croix, et qui se rassemblent spontanément. Il y a, j'allais dire, la foule de l'intérieur et la foule de l'extérieur. La foule qui condamne et la foule qui accueille et qui pleure. Ensuite, dans le premier texte, cette foule est appelée, je l'ai souligné, la fille de Sion. Cette Jérusalem qui accueille Jésus, elle est appelée la fille de Sion. Et Jésus, quand il porte sa croix, ou plutôt quand on la fait porter à Simon de Cyrène, et qu'il voit les femmes qui pleurent sur son chemin, comment il va les appeler ? Fille de Jérusalem. C'est synonyme, fille de Sion, fille de Jérusalem. Donc il y a vraiment une identité de cette foule. Alors c'est vrai que, selon le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 53, c'est vrai que Jésus a été méprisé et abandonné des hommes, et que dans sa génération, peu ont cru que s'il mourait, c'était en fait pour les péchés de son peuple. Mais l'Évangile nous montre bien que ce sont les leaders du peuple qui ont provoqué sa condamnation par les Romains, alors qu'une grande partie du peuple de Jérusalem avait compris beaucoup de choses sur qui était Jésus. Alors justement, c'est le temps peut-être d'examiner ce qu'avaient compris ces gens du bas peuple, ces gens qu'on méprise, mais qui pourtant sont étonnants dans ce qu'ils font et dans ce qu'ils disent. Pour cela, donc, faut revenir sur ce qu'ils proclament en accueillant Jésus à Jérusalem. On va voir que cette foule du peuple n'est pas une foule inculte et qu'elle ne manquait pas de connaissances sur les choses spirituelles. Ce qu'elle crie, c'est quoi en fait? C'est ce que je vous ai lu tout à l'heure en préambule. C'est le psaume 118. Ce sont les Écritures. Elle voit cet homme qui fait des miracles en Galilée, qui arrive, et de suite elle pense à l'Écriture. De suite elle pense au psaume 118, qui est un psaume messianique. Or, tout dans cet épisode de l'arrivée de Jésus à Jérusalem est messianique. D'abord, la foule coupe des branches. Elle les agite et puis elle les met sur le chemin pour accueillir Jésus. C'est quelque chose qui évoque, dans la pensée juive, ça évoque tout de suite une fête. C'est la fête de Soukhot. Cette fête où on construit des cabanes, vous savez, cette troisième fête de l'Éternel, où on construit des cabanes et où on vit pendant une semaine sous les tentes. Et c'est une fête messianique. C'est la seule fête qui symboliquement ne s'est pas encore accomplie. Symboliquement, la Pâque, Pessah, Pâque, s'est accomplie. Jésus est mort, il est ressuscité. Symboliquement, Shavuot, Pentecôte, s'est accompli. Le Saint-Esprit est venu. Mais la fête de Soukhot, c'est pour ça d'ailleurs que les chrétiens ne la connaissent pas bien, c'est qu'elle ne s'est pas encore accomplie, prophétiquement et symboliquement. C'est une fête qui s'accomplira au retour de Jésus. Car il est dit dans les prophètes que lorsque le Messie sera là, toutes les nations monteront à Jérusalem une fois par an pour célébrer la fête de Soukhot. Ensuite, la foule cite le verset 26 du psaume. Baruch Abba Beshem Adonai, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Une phrase d'accueil éminemment messianique. D'ailleurs, cette phrase est tellement messianique que Jésus lui-même, dans Luc 13, annonce à Jérusalem qu'elle ne le verra plus tant qu'elle ne dira pas « Baruch Abba Beshem Adonai, bienvenue à celui qui vient au nom du Seigneur » quand il viendra pour la délivrance finale. Ensuite encore, elle appelle Jésus « Fils de David » qui est un titre messianique. Enfin, la foule cite le verset 25 du psaume. Hoshiana, Hoshiana, Hosanna, Hosanna dans nos traductions. Sauve maintenant, sauve de grâce. Elle a donc compris que Jésus vient pour le salut. Donc la foule du peuple de Jérusalem a compris beaucoup de choses concernant Jésus. Des choses basées sur toute l'Écriture, mais notamment sur le psaume 118. Mais il y a une chose qu'elle n'a pas comprise. Une chose importante, qui explique en partie ses pleurs, ses lamentations, quand elle accompagne Jésus vers son supplice. Mais ça se comprend qu'elle n'ait pas compris. Ça s'explique, car c'est quelque chose sur lequel le psaume est un peu ambigu. Il est vrai que le psaume 118 se termine en disant « Attachez la victime avec des liens, amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel ». Et ce psaume, qui est un psaume tout entier messianique, forcément on peut se poser la question, mais qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie attacher la victime avec des liens? Et Jésus, là, est lié. Qu'est-ce que ça signifie amener-le jusqu'aux cornes de l'autel? C'était l'autel des sacrifices, et on était en train d'amener Jésus au sacrifice. Donc c'est vrai qu'il y a cet indice qui aurait pu nous faire penser, leur faire penser, que Jésus devait mourir, qu'il allait mourir. Mais le psaume est, je disais, assez ambigu, parce que dans le psaume, on l'a lu aussi, c'est d'abord un psaume de victoire et non de défaite. C'est un psaume de vie et non de mort. Ce psaume dit explicitement au verset 17 « Je ne mourrai pas ». Et là, on l'amène à la mort. « Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. » Et là, on est en train de le livrer à la mort. Donc la foule ne comprend pas. Pas tout. Elle ne comprend pas tout. Et donc elle est désespérée. Celle dont elle est sûre qu'il est le Messie, on est en train de le sacrifier, de le faire partir définitivement. Comment comprendre cette contradiction apparente dans le psaume 118 ? De dire à la fois, oui, il est lié, on l'attache, on l'amène à l'autel du sacrifice, et d'un autre côté, non, tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras les merveilles de l'Éternel. C'est qu'en fait, ce psaume, comme bien d'autres textes bibliques, combine les deux apparitions du Messie. La première, ce qu'on appelle le Mashiach ben Yosef, le Messie fils de Joseph, venu pour souffrir, pour faire l'expiation du péché. Et puis la deuxième, venu en tant que Mashiach ben David, c'est-à-dire le Messie fils de David, qui vient pour la victoire, qui vient pour la délivrance finale. Et ce qui relie cette contradiction apparente dans le psaume 118, en fait, c'est oui, il va à l'autel du sacrifice, mais oui, il va vivre parce qu'il va ressusciter et qu'il va raconter et faire les œuvres de l'Éternel. Alors, qu'est devenue cette foule après la croix ? Qu'est devenue cette foule après la croix ? Eux qui ont cru en Jésus, qui l'ont accueilli comme le Messie, cette foule que l'on dit parfois donc inculte ou versatile, non, qui avait compris, qui cite l'Écriture en disant c'est lui, oui c'est lui le fils de David qui devait venir. Et puis qui après se désespère hein, en l'accompagnant à la croix, qui pleure toutes les larmes de son corps parce que l'espérance qu'ils avaient eue semble mourir. Qu'est-ce qu'elle est devenue cette foule ? Elle n'avait pas tout compris, mais heureusement, cette révélation est venue par la suite. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 15, les apôtres font remarquer à Paul, qui est alors de passage à Jérusalem, et je cite, « Combien de milliers de Juifs ont cru ?» C'est dans Acte 21, pardon, j'ai dit 15. Je vous lis Acte 21, verset 18. « Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu, puis ils lui dirent, « Tu vois, frère, à Jérusalem, combien de milliers de Juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi. » Pour moi, dans cette foule de milliers de Juifs, on se souvient que le premier jour de la Pentecôte, déjà, Pierre prêche, combien de conversions ? 3000 ! Et là, on est des années après ça. Donc le peuple a grandi, ce sont des milliers. On évalue qu'à l'époque, la ville de Jérusalem contenait 80 000 habitants. 80 000. 3000 conversions le premier jour, combien de milliers ensuite ? Ils ne le disent même pas. Tu vois, ils sont tellement nombreux que Paul, que les apôtres, que Jacques va dire à Paul, mais tu vois combien de milliers ont cru. Cette foule, elle a cru. Ça, c'est extraordinaire. L'œuvre de Dieu s'accomplit. L'œuvre de Dieu s'accomplit. Le pourcentage des croyants en Jésus à l'époque, je ne sais pas de combien il était, ça ne nous est pas dit, il n'y a pas de statistiques, mais en tout cas, il n'était pas négligeable. Sur 80 000 habitants, je dirais, je ne sais pas, mettons 10 000 peut-être, en quelques années, 1 sur 8 qui marchait avec Dieu, avec le Seigneur Jésus. Ce texte nous parle, tous ces textes, cet accompagnement de la foule, ça montre comment le Seigneur agit, progressivement, par l'Écriture. Et puis même s'il y a des moments où on ne comprend plus rien, où toute l'espérance semble s'arrêter, l'œuvre de Dieu continue. Dieu continue à faire son œuvre dans son peuple, pour ses bien-aimés. Ces textes me parlent de la fidélité et de la souveraineté de Dieu pour accomplir son plan pour nous. Parce que ce que Dieu a fait pour cette foule, il le fait aussi pour chacun de nous, il le fait pour nous en tant que foule aussi, en tant que peuple, pour l'Église. Je crois que le chemin de cette foule est plein d'enseignements. D'abord, je crois qu'il faut enlever de nos têtes que le peuple juif a rejeté Jésus. C'est pas ce que l'évangile nous a dit ce matin, en tout cas. C'est pas du tout ce que l'évangile nous a dit ce matin. Les autorités du peuple l'ont livré. Mais la foule qu'on néglige, la foule qu'on méprise, eux, ils l'avaient cru. Je crois que c'est important, même, je me le disais souvent, et avec Norbert à l'époque où on était anciens tous les deux, on se le disait souvent, écoutons le peuple. Écoutons le peuple. Les autorités ne savent pas toujours tout. On l'a vu avec les élections. Est-ce qu'on écoute le peuple? Je ne suis pas sûr. C'est des grandes leçons pour la réalité dans la société, dans l'Église, dans le peuple de Dieu. Et ça aussi, c'est une des leçons qui est importante. C'était bien ce matin qu'on prenne la scène ensemble. Parce que David le rappelait, nous sommes une famille. Nous ne sommes pas un peuple avec des chefs, des sous-chefs, des petits sous-chefs et puis le bas peuple. Nous sommes tous enfants de Dieu. Et on se saisit tous de la parole. Et on comprend cette parole. Et on la reçoit, cette parole. Amen. Je ne vais pas prolonger, c'est l'heure. Mais je voulais juste vous partager ça ce matin. Ça me semble tellement important de revenir à l'Écriture, de peut-être laisser nos préjugés, nos préconçus, et puis de regarder vraiment ce que l'Écriture nous dit. Et je me réjouis de voir combien on crut en Jésus, même dans son peuple. Alors c'était une minorité. Combien dans ces générations ont cru, dit le prophète ? Pas beaucoup, mais quand même, ils étaient là. Et dans notre génération, combien croient ? Quel est le pourcentage dans notre nation de ceux qui croient ? Est-ce qu'on va se lamenter ? Est-ce qu'on va dire « le peuple de France a abandonné Dieu ?» Non, nous sommes là. Vous savez, c'est comme l'histoire du prophète. « Je suis resté moi seul !» Non, il y en a 7000. Amen. Et je crois que c'est vraiment un message d'espérance, de foi et d'attente dans la promesse de Dieu pour nous, pour la nation. Amen.